Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Je ne sais pas ce qui se passe, je vois même les gamins qui viennent me faire signer des autographes. Je dis, mais tu n'as pas connu Poupou? Ah, il me dit, c'est mon papy, c'est formidable.
Même les plus jeunes le reconnaissaient. C'est une légende qui vient de s'éteindre, dont la réputation dépassait largement le monde du cyclisme. On ne verra plus Raymond Poulidor sur les routes du Tour de France. Le champion a tiré sa révérence à 83 ans. Le Stade de France, les terrasses, le Bataclan. 4 ans après les attentats les plus meurtriers commis en France, journée de commémoration et l'émotion toujours aussi forte. Les personnels hospitaliers ont prévu de manifester demain en masse. Ils dénoncent la mort annoncée de l'hôpital public.
On est extrêmement déterminés. Nous sommes inquiets de voir finalement l'hôpital public juste s'effondrer.
Patrick Balkany ne sortira pas de prison, du moins pas tout de suite. Sa demande de remise en liberté a été rejetée ce matin par les juges. Dans ce journal, on sera aussi aux États-Unis où se déroulent les auditions publiques au Congrès, public et télévisé, destinées à nourrir l'enquête en vue d'une éventuelle destitution de Donald Trump. Une nouvelle perturbation va traverser le pays demain, apportant de la pluie en grande quantité et parfois même de la neige. 3 départements sont d'ailleurs placés ce soir en vigilance orange pour risque de neige et de verglas. Il s'agit de la Drôme, de l'Isère et de l'Ain, plus de 50 centimètres attendus par endroit. Attention donc demain matin si vous êtes en voiture et ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'Interview Éco. Ce soir, Carole Ferry reçoit Philippe Kwaranski. Il est le directeur général de Skiset. C'est l'un des leaders mondiaux de la location de ski. Alors que les stations se préparent, les premières remontées devraient ouvrir d'ici une quinzaine de jours.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et la disparition aujourd'hui donc d'un champion à la longévité et à la popularité surtout exceptionnelle. Raymond Poulidor s'est éteint à 83 ans. Celui que les Français appelaient familièrement Poupou, symbole du Tour de France, dont il n'a pourtant jamais porté le maillot jaune. Ce qui lui a d'ailleurs valu ce surnom qui lui collait à la peau, celui de l'éternel second surnom dont il s'amusait.
J'ai pas fait esprit de ne pas gagner ou de ne pas revêtir le maillot jaune. Mais si j'avais gagné 2-3 Tours de France, je ne serais certainement pas là aujourd'hui. Je passe pour le coureur qui a toujours fait deuxième, c'est-à-dire qui n'a jamais gagné de course. D'ailleurs, les enfants, ils viennent me voir. C'est toi, Poupou? Ça fait plaisir, mais tais-toi. C'est toi, Poupou? Mon papy m'a parlé. C'est toi qui faisais toujours deuxième. Voilà. Mitterrand, quand il a été battu pour la deuxième fois à la présidence de la République, on a dit, c'est le Poupou de la politique.
Raymond Poulidor, jamais maillot jaune, mais toujours premier dans le cœur des Français. Jean-François Pérez, d'ailleurs, depuis ce matin, les hommages et les réactions sont à la hauteur de la popularité du champion.
Absolument, à commencer par celle du président de la République. Ses exploits, son panache, son courage resteront gravés dans les mémoires. Poupou, à jamais maillot jaune dans le cœur des Français, écrite Emmanuel Macron. Une légende française, renchérit la ministre des Sports, Roxana Maracina, nous souriant. Fair play, souvent plein de panache, Raymond Poulidor incarnait les grandes heures du cyclisme des années 60 et 70. Ses duels homériques avec Jacques Anquetil et puis Eddy Merckx ont marqué l'histoire d'un Tour de France qu'il n'aura jamais gagné, finissant 8 fois sur le podium, la dernière en 1976 à 40 ans. Parmi ses derniers adversaires, un futur vainqueur de la Grande Boucle, bluffé par son immense popularité, Bernard Thévenet.
Ah bon, on n'entendait que lui, on n'entendait que Raymond, que Poulidor, hein, il y avait 90%, je pense, des pancartes et des encouragements qui lui étaient dédiés. Même en fin de carrière, il était toujours immensément populaire. Et c'est vrai que peut-être il était populaire justement parce que les gens se reconnaissaient en lui.
Voilà, Raymond Poulidor était issu d'une famille d'agriculteurs de la Creuse. Il incarnait ce terroir comme personne avec sa bonhomie et son sens proverbial de l'économie. On l'avait encore vu cet été sur le Tour de France. Il avait d'ailleurs prédit sur l'antenne d'Europe 1 la victoire d'Egan Bernal. Poulidor nous quitte sur 189 victoires, dont un Tour d'Espagne, des Paris-Nice, Milan-San Remo ou encore Flèche Wallonne. Sa légende, il l'aura subie autant qu'il en aura profité. J'ai la hantise de ne pas être reconnu dans la rue, avouait-il. La Vox Poupoulidor, comme l'écrivait Antoine Blondin, n'est pas près de s'éteindre.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et on va maintenant retrouver Stéphane Place en Haute-Vienne, à Saint-Léonard-de-Noblat, où vivait Raymond Poulidor et où il s'est éteint la nuit dernière, Stéphane.
Oui, et ici à Saint-Léonard-de-Noblat, une avenue et un stade portent déjà le nom de Raymond Poulidor. Mais dans cette commune de 4800 habitants, au-delà du champion, c'est la simplicité de l'homme dont on se souvient. Il venait chercher son journal tous les matins à la maison de la presse que tient Marie-Jeanne Meillac.
Son vélo posé là, devant chez les commerçants, et sa baguette sous le bras. Son sourire quand il passait la porte. Son journal, c'était l'Équipe. très abordable, très gentil. Tous les matins qu'il venait, il y avait toujours des copains qui le rejoignaient. Là, il parlait des résultats sportifs. Ça va faire un vide, ça c'est sûr.
Raymond Poulidor avait ici des amis qui le connaissaient depuis plus de 60 ans pour certains. C'est le cas de Jean-Claude Micot.
Quand on a eu des parents qui étaient cultivateurs, ses frères qui travaillaient à la ferme, il savait ce que c'était que le travail. J'étais toujours avec lui. Il a passé quand même 47 jours à l'hôpital de Saint-Léonard. Et la première chose qu'il me disait, « Ah, tu vas me parler des actualités ». Je lui ai parlé des principaux événements sportifs. Je lui ai parlé quand son petit-fils a refait son premier cyclocross le premier dimanche de novembre. Mais il était content parce qu'il en était fou de son petit-fils Mathieu.
Et jusqu'au bout, disent ses copains, Raymond a parlé de cyclisme, ce sport auquel il devait son incroyable popularité.
Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Léonard de Noblat, dans le Limousin, où tout le peloton rendra hommage à Raymond Poulidor l'été prochain. Un arrêt du Tour de France est prévu juste devant sa maison le 9 juillet.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et il y a 4 ans, la France perdait 130 de ses enfants. Un hommage sobre a été rendu aujourd'hui, 4 ans donc après les attentats de Saint-Denis et de Paris. Les commémorations ont débuté au Stade de France, puis aux terrasses visées par les terroristes et bien sûr devant le Bataclan, avec ses noms égrenés comme chaque année, ceux des 130 victimes. Mathieu Bock, un jardin du futur verra bientôt le jour. C'est l'un des premiers éléments d'ailleurs de ce jardin a été dévoilé aujourd'hui.
Oui, un olivier qui sera bientôt planté sur un site qui reste encore à définir à Paris. Les familles et proches des victimes ont pu accrocher aux branches de l'arbre un petit carton blanc sur lequel ils ont écrit quelques mots d'amour, comme Véronique, la mère de Claire Métraud-Taprest, morte au Bataclan.
J'ai écrit à Claire, ma philosophe, ma roqueuse, ma fille unique, mon enfant.
Moi, j'écris pour ma fille, voilà, parce que j'ai besoin que le nom de ma fille soit qu'elle existe. Voilà, ça a eu lieu, voilà, il faut l'évoquer, il faut évoquer tous les autres aussi. Symboliquement, c'est beau de faire ce geste aussi et de le partager avec d'autres, de ne pas être seule. Voilà, parce que les douleurs, elles sont tous les jours, c'est pas juste ce jour-là.
Puis, moment un peu troublant, vous l'entendez derrière moi, dans les enceintes posées devant la mairie du 11e où était présenté cet olivier, a résonné Save a Prayer. C'est la dernière chanson que le groupe Eagle of Death Metal a joué sur scène ce soir-là, avant l'irruption des terroristes. Le chanteur Jesse Hughes était là, tentant de dissimuler ses larmes sous son chapeau de cow-boy.
Mon cœur sera toujours ici. On est lié par le sang avec les victimes. D'ailleurs, je n'aime pas victime, je préfère héros. Des gens sont morts pour protéger leurs amis. C'est la plus grande preuve d'amour et je l'ai vu de mes yeux.
Et Jesse Hughes a promis qu'il reviendrait chaque 13 novembre à Paris, comme il l'a fait tous les ans depuis les attentats.
Le reportage de Mathieu Bock. Le cri d'alarme de l'hôpital public qui redoute d'arriver à un point de rupture irréversible. Les personnels hospitaliers manifesteront demain dans tout le pays pour dénoncer le manque de moyens. Pour le professeur Rémi Salomon, qui est chef de service en pédiatrie à l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital se meurt et le gouvernement regarde ailleurs.
Ce qui a déclenché ce mouvement, c'est le vote du budget de l'hôpital au Parlement.
Et donc ce budget de l'hôpital, il est en deçà, très largement, des besoins que vous avez.
Il est environ 1 milliard, 1,5 milliard en deçà des besoins. Nous sommes inquiets de voir finalement l'hôpital public juste s'effondrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est extrêmement déterminés. Donc si on nous propose des rustines alors que le bateau a des voies d'eau un peu partout...
C'est ce qu'elle vous propose,
Anne
Buzyn, jusqu'à
voir.
Présent.
J'imagine qu'en ce moment où nous parlons, le gouvernement
doit être... Elle connaît. Elle connaît
oui,
parfaitement.
Oui, mais vous savez, je ne crois pas que ce soit Madame Buzyn qui décide. Je pense que c'est plutôt Monsieur Darmanin ou Monsieur Philippe. Donc je pense qu'ils doivent se parler au moment où nous parlons pour essayer de voir
quelle enveloppe. Vous nous dites qu'elle est pieds et poings liés, c'est ce que vous nous dites.
Je pense que ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui a le budget en main. Hein. Donc je pense que oui, elle est consciente. Elle sait, effectivement. Elle a travaillé longtemps à l'hôpital. Elle visite souvent les services, donc elle sait.
Le professeur Salomon, qui était l'invité du grand journal de Nathalie Lévy ce soir sur Europe 1. Une partie de l'université Lyon 2 est restée fermée aujourd'hui au lendemain des manifestations suite à la tentative de suicide d'un étudiant lyonnais vendredi dernier. Un geste désespéré qui a mis en lumière la précarité dont souffrent de nombreux étudiants. Leurs syndicats seront reçus demain par le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, qui était l'invité d'Europe 1 ce soir.
Évidemment, il y a une précarité étudiante dans notre pays. Nous, depuis 2 ans, on a pris des mesures très fortes. Je pense notamment à la suppression de la cotisation sécurité sociale que tous les étudiants devaient payer 217 euros au début de chaque année. Je pense à la revalorisation des bourses de 46 millions d'euros qui a été annoncée il y a 2 mois. Il y a des aides d'urgence qui existent, qui peuvent être versées en un coup ou de manière annuelle, qui sont versées par les CROUS, par les universités. Et tout ce qu'on est en train de regarder d'ailleurs sur ce qui s'est passé à Lyon, c'est pour ça qu'on a diligenté une enquête, c'est dans quelle mesure est-ce que le jeune avait connaissance de ces dispositifs? Est-ce qu'il avait fait une demande à l'université? Alors, et si c'est le cas, pourquoi l'université n'y a pas répondu? Il reste de la précarité dans notre pays, de la précarité étudiante singulièrement.
Question
et c'est pour
précise.
Ça qu'on continue à travailler, qu'on continue à avancer, notamment avec le revenu universel d'activité. D'ici à la fin de l'année, décembre ou janvier, il y aura des annonces sur le revenu universel d'activité.
Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, qui était l'invité de David Doucan ce soir sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h10 et le tueur en série Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier sont tous les deux ce soir en garde à vue. On l'a appris tout à l'heure, entendu sur la disparition de Lydie Loger, 29 ans, en 1993. Dans l'Orne, son corps n'a jamais été découvert. L'affaire avait débouché sur un non-lieu, mais elle avait été rouverte l'an dernier. En effet, les enquêteurs ont pu établir un rapprochement entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Fourniret et l'ADN de la famille de la jeune femme. Patrick Balkany est choqué. C'est son épouse qui le dit après le refus de sa demande de mise en liberté. Décision de la Cour d'appel de Paris ce matin. Marion Dubreuil, après une première décision pourtant positive, cette fois donc les juges ont dit non.
Oui, pour la Cour d'appel de Paris, il existe une différence de taille entre les deux dossiers pour lesquels Patrick Balkany est poursuivi. Le premier, pour fraude fiscale, ne concerne que les époux Balkany. Le deuxième, pour blanchiment de fraude fiscale, implique davantage de prévenus. Le maire de Levallois lui-même, son épouse bien sûr, son ancien bras droit Jean-Pierre Aubry, son avocat historique et son fils. Alors pour éviter toute concertation frauduleuse entre eux, tout risque de pression ou de collusion, la Cour d'appel demande le maintien en prison de Patrick Balkany jusqu'à l'audience en appel, qui devrait se tenir au plus tard en avril prochain. Impensable pour l'avocat de Patrick Balkany, Antoine V a déposé deux nouvelles demandes auprès de la Cour d'appel de Paris.
Une première pour faire échec à cette décision qui a été rendue aujourd'hui sur un prétendu risque de concertation frauduleuse avec des témoins, dont le fils de M. Balkany, qui a d'ailleurs un parloir avec son père, donc ça nous paraît non fondé. Et puis deuxièmement, pour une modification du montant de la caution qui a été exigée, que Patrick Balkany n'est pas en mesure de réunir.
La justice a deux mois pour se prononcer sur cette nouvelle demande de mise en liberté. Le maire de Levallois pourrait donc comparaître détenu à son procès en appel pour fraude fiscale le 11 décembre prochain.
Les précisions de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. L'ancien ministre Pierre Joxe, de nouveau accusé d'agression sexuelle. Une femme de 40 ans qui s'est occupée l'an dernier de son épouse malade a déposé plainte hier. Elle l'accuse d'attouchement sexuel répété, ce que nie l'ancien ministre. Pierre Joxe avait déjà été accusé d'attouchement par une autre femme il y a deux ans. Les frappes israéliennes sur Gaza, le bilan s'est encore alourdi aujourd'hui. Il est désormais de 26 morts, 26 Palestiniens tués en deux jours, dont 16 pour la seule journée d'aujourd'hui. Aux États-Unis, l'ouverture des auditions publiques au Congrès, publiques et télévisées, destinées à nourrir l'enquête en vue d'une éventuelle destitution de Donald Trump, que les démocrates accusent, vous le savez, d'abus de pouvoir. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Xavier, les chaînes ont même bousculé pour l'occasion leur programme et c'est précisément ce que souhaitaient les démocrates.
Et oui, parce que l'enjeu, c'est de convaincre l'opinion publique américaine que le président a abusé de son pouvoir et que pour ça, il mérite d'être destitué. Ce qu'ont raconté ses premiers témoins en direct aujourd'hui à la télévision était déjà connu, ils l'avaient dit à huis clos, c'était déjà accablant pour Donald Trump, mais là, ils l'ont répété devant des millions d'Américains. Par exemple, cette phrase essentielle de l'ambassadeur américain en Ukraine, Bill Taylor, voilà ce qu'il a dit quand il a compris que Donald Trump faisait du chantage au président ukrainien pour qu'il salisse son rival politique Joe Biden.
Geler l'aide militaire en échange d'un coup de main dans une campagne électorale américaine, ce serait dingue.
Pour défendre le président, les républicains ont eux aussi fait le show, interrompant plusieurs fois le démocrate qui mène les auditions, dénonçant, je cite, « un spectacle de calomnie parfaitement orchestré ». Et Donald Trump, lui, a fait de la contre-programmation. Il reçoit en ce moment le président turc Erdogan, histoire de montrer que lui travaille pendant que l'opposition s'agite. La guerre des images fait rage aujourd'hui à Washington.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En Tunisie, le chef historique du parti Ennahda d'inspiration islamiste, qui était arrivé en tête des législatives du mois dernier, a été élu cet après-midi président du Parlement. Venise, toujours sous les eaux, la place Saint-Marc et sa basilique inondées, des touristes avec de l'eau jusqu'au ventre, des gondoles échouées. L'Acqua Alta, une marée haute exceptionnelle qui touche en ce moment la cité des Doges, est la plus forte depuis 1966. Le maire demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Revenir dans le top 3 du rugby mondial, c'est l'ambition de Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du 15 de France. Il définit une feuille de route qui doit permettre aux Bleus de retrouver l'excellence perdue depuis la finale de la Coupe du Monde 2011. En foot, Arsène Wenger, nommé directeur du développement du foot mondial de la FIFA, L'Alsacien, qui a 70 ans, a connu le succès comme entraîneur avec Monaco, puis avec Arsenal, qu'il a dirigé pendant 22 ans jusqu'en 2018, jusqu'à l'année dernière. Le CSA va devoir verser plus d'un million d'euros à C8. Il y a 2 ans, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait privé en effet la chaîne de publicité pendant une semaine, après un canular diffusé dans l'émission de Cyril Hanouna. Sanction annulée par le Conseil d'État, donc, qui demande au CSA de rembourser une partie du préjudice subi par la chaîne. Et puis le prix interallié remis à la mi-journée à Karine Thuil pour Les choses humaines, paru chez Gallimard. Cette quinzaine des prix littéraires s'achèvera demain avec la remise du Goncourt des lycéens. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Anissa, 3 départements sont en vigilance orange pour risque de neige et de verglas. Il s'agit de la Drôme, de l'Ain et de l'Ardèche.
Oui, effectivement Isabelle, de la neige demain à basse altitude. C'est ça la particularité pour demain, c'est qu'il va neiger à partir de 400 mètres avec des températures le matin négatives, ce qui peut donc créer des conditions de verglas et ce qui peut rendre vos conditions de circulation très difficiles. Soyez prudents demain matin. C'est une journée hivernale qui vous attend à l'est de l'Alsace au bassin méditerranéen. La journée de demain est agitée. C'est cette perturbation qui traverse le pays et qui arrive avec donc beaucoup de nuages et des pluies très importantes sur toutes les frontières de l'Est, avec en Provence et en vallée du Rhône des coups de tonnerre possibles. Sur le quart sud-ouest, après le passage de cette perturbation, du centre aux Pyrénées, c'est un ciel de traîne qui vous apporte des averses sous forme de grésil. Plus au nord, en Picardie, en région parisienne, en Sarthe, en Mayenne, sur les Pays de la Loire, là le temps reste sec, avec de belles éclaircies dans l'après-midi, c'est là que vous aurez la plus belle journée. Sur les côtes de la Manche et le littoral breton, la journée sera rythmée par des averses qui alternent avec quelques percées du soleil. Les températures, elles sont toujours en dessous des normales de saison, je vous le disais au début de cette météo, négative le matin, moins 1 à Strasbourg, 4 à Paris, 7 à Biarritz, et dans l'après-midi, ça crampe guère, 5 degrés à Aurillac, 7 à Lyon, 9 à Paris et 17 à Bastia.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Guy Diamo de boursier.com, juste avant l'invité Echo. Ce soir, Carole Ferry reçoit le directeur général de Skisset. C'est l'un des leaders mondiaux de la location de ski. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse maintenant à la bourse. Et c'est avec vous Didier Amaud, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui campe sur ses sommets ce soir dans un marché plutôt calme. Hein.
Wall Street reste au plus haut, oui, le Dow Jones encore plus 0,33%, une petite hausse. Mais un nouveau record, 27 783 points sur l'indice Dow Jones. Le Nasdaq est quasiment stable, 8 482 points, moins 0,04%. Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, a qualifié la croissance de durable aux États-Unis tout en confirmant la pause dans le cycle de baisse des taux actuel outre-Atlantique. Ça donne des valeurs de technologie qui sont fermes mais sans plus. Apple plus 1%, Microsoft plus 0,16%, Cisco plus 0,2% de toute petite hausse. Nike prend quand même 2%. Walt Disney aussi grimpe de 7%. Nouvelle hausse de Walt Disney au lendemain du lancement du service de vidéo en streaming Disney+. Le pétrole reprend un petit peu de hauteur. Plus 0,8%, $62,50 le Brent. Mais Exxon n'en profite pas. Moins 0,8% à $68,80. L'euro ne bouge pas non plus. L'euro campe autour des 1,10 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a marqué une petite pause après ses récents records.
Oui, ça ne bouge pas non plus. Hein. On a soufflé, on va dire. Moins 0,21% sur le CAC 40. 5 907 points. Ça veut dire que le CAC reste quand même au-dessus des 5 900 points. Donc pratiquement au plus haut de l'année et au plus haut depuis 2007. Hein, surtout, ça se passe un petit peu moins bien sur les valeurs industrielles aujourd'hui qui ont marqué un temps d'arrêt, des prises de bénéfices sur des valeurs qui étaient bien montées. Saint-Gobain, moins 3,5%. Peugeot, moins 2%, avec d'autres valeurs industrielles comme Renault, moins 1,5%, ou Michelin, moins 1%. La plus forte baisse revient à l'opérateur satellitaire SES qui chute de 15% après une dégradation du broker JP Morgan qui est devenu très prudent sur SES. Qui est devenu neutre sur le dossier, donc moins 15% ce soir pour l'opérateur satellitaire.
Et puis il y a une exception Didier, c'est le titre Verallia qui lui a nettement progressé.
Forte hausse, oui, plus 3,6%, 28,28€. Verallia, le troisième producteur d'emballage en verre au monde, qui est arrivé en bourse le mois dernier et conseillé à l'achat par plusieurs analystes, dont celui de Citi qui vise un cours de 33€. La Deutsche Bank cible un cours encore plus haut, 37€. Donc Verallia ce soir en hausse de 3,6% à 28,28€. 28,28 € à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse un petit peu partout. Des prises de bénéfices sur le DAX à Francfort, moins 0,4%. À Bruxelles, moins 0,5%. À Milan, moins 0,8%. Madrid perd encore 1,2%. Toujours sur la situation politique difficile en Espagne. On rappelle le CAC 40 en baisse, moins 0,21%. 5 907 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamaud de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Carole Ferry, vous recevez ce soir le directeur général de Skisset.
Bonsoir Philippe Koranski.
Bonsoir Carole.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de Skisset, l'un des leaders mondiaux de la location de ski. Les stations se préparent actuellement, la neige est là. Certaines stations vont ouvrir d'ici une dizaine de jours, je crois. Et vous, dans vos magasins, c'est l'effervescence également, on se prépare ?
Oui, oui, ils sont en plein préparatif. 80 à 90% du personnel est saisonnier. Alors, pour la plupart, ce sont des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Mais c'est l'effervescence, le personnel, les cartons, tout arrive en même temps.
Donc, il faut installer les chaussures dans les casiers.
Voilà, il faut installer les nouvelles chaussures, les nouveaux skis. Donc, c'est le branle-bas de combat dans les stations.
Et comment s'annonce la saison, alors ?
Écoutez, la tendance est plutôt bonne. Cette année, on bénéficie d'un découpage des vacances scolaires européennes qui est quasi parfait. Noël, jour de l'an, les réveillons ne tombent pas les jours d'arrivée. Février, les vacances de carnaval des Belges et des Néerlandais ne se chevauchent pas avec celles des Parisiens. Et les vacances de Pâques démarrent tout début avril pour la zone de Paris. Donc, c'est vraiment un découpage idéal cette année.
A priori, il va y avoir du monde dans les stations.
Donc on est pour l'instant dans une tendance à deux chiffres, ce qui fait plaisir. Et je pense que tout le monde devrait en profiter.
Alors en 2011, vous lancez le ski le plus léger du marché. Aujourd'hui, vous révolutionnez la location de chaussures de ski avec un scanner 3D qui prend la taille de votre pied, qui vérifie comment il est courbé, etc. pour vous donner les meilleures chaussures de ski. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement ?
Oui, alors aujourd'hui, globalement, le niveau de la location de ski s'est considérablement amélioré dans les magasins de montagne. Le facteur le plus stressant pour les clients aujourd'hui, c'est toujours le pied, le mal de pied. Les gens essayent, réessayent, changent plusieurs fois de chaussures avant de trouver la chaussure qui leur convient.
Chaussures à leurs pieds.
Chaussures à leurs pieds, tout à fait. Et donc, ce système de scanner 3D a été imaginé à partir de choses qui existent déjà avec les chaussures de ville. Hein, et donc, prend en compte la volumétrie du pied, son épaisseur, la force du coup de pied, la largeur du mollet. Et donne a priori la chaussure qui convient, la marque de chaussure qui convient. Donc on a développé ce système avec des interfaces informatiques qui permettent de guider tout de suite le skiman vers la bonne marque de chaussure. Les gens semblent apprécier très fortement ce service.
C'est un service que vous faites payer cher ?
On ne fait pas payer ce service. C'est un service qui permet de fluidifier les files d'attente dans les magasins, puisque le gros problème dans les magasins, c'est justement l'essayage des chaussures. Et donc après, cette donnée est stockée dans une base de données et est associée à l'adresse Internet du client.
Donc qu'il aille dans n'importe quel magasin SkiSet derrière, on sait
Après, il retourne sur Internet, il fait sa réservation, il y a son profil skieur qui va réapparaître à la réservation avec la volumétrie de son pied.
Alors, si on part en vacances, ceux qui ont la chance de partir en vacances au ski, est-ce qu'il vaut mieux réserver très à l'avance sur Internet ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être en station ? Est-ce que ça coûte moins cher ? Est-ce que vous en avez de plus en plus qui réservent sur Internet ?
Alors, quand on a démarré notre premier site Internet en 2002, je crois qu'on a fait 150 locations. L'année dernière, on a fait presque 400 000 locations de ski sur Internet. Donc, il y a un phénomène naturel, je dirais, de transfert du commerce vers l'Internet. Donc les gens ont la possibilité de visualiser rapidement la position du magasin par rapport à leur hébergement, qui est le premier facteur, et ensuite de choisir les skis pour leurs enfants, les skis pour les adultes, à une vitesse quand même assez étonnante. Et donc les skis vous attendent étiquetés à votre nom dans le magasin. Ça ne vous réduit pas votre temps d'attente, hein, parce qu'on ne peut pas faire passer les gens les uns devant les autres. Ça vous réduit quand même l'exécution, la prise du matériel, etc. Surtout si vous avez déjà un profil skieur qui est déjà enregistré. Vous payez 20 à 25% moins cher en réservant sur Internet. Donc, c'est quand même un avantage significatif. Et si vous réservez plus de 8 jours avant la date d'arrivée, vous avez la possibilité de choisir un modèle en particulier si vous êtes un excellent skieur et que vous avez des desiderata
quelques
spécifiques.
Quelques exigences. Voilà. En matière de glisse, c'est quoi la tendance cette année?
La tendance est au freeride depuis déjà plusieurs années.
D'aller glisser dans des terrains inconnus.
Oui, c'est-à-dire de faire des traces, qui se substituent aux traces que vous pouviez faire autrefois avec un snowboard. Bon, il y a toujours des amateurs de snowboard, mais le freeride permet de faire des grandes courbes. C'est une tendance très forte. Hein. Ce sont des skis qui sont bien sûr un petit peu carvés, qui vous permettent de faire des traces sympathiques sur la neige.
Vous annoncez aussi la création d'une nouvelle marque, Net Ski.
Oui, alors bon, on est en développement permanent. Hein. Nous avons démarré Ski7 avec une trentaine de magasins. Nous sommes presque 900 magasins aujourd'hui en Europe. Ski7 est un petit peu le G7 de la location de ski. Et Net Ski, donc cette nouvelle enseigne, se veut devenir le Uber de la location de ski.
Si on veut comparer au monde des taxis.
Voilà, non pas avec des prix cassés, parce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied à faire des prix bas dans un marché qui est déjà chaotique au niveau des prix, mais avec une offre simplifiée et de qualité qui soit très facile à comprendre immédiatement. Et,
pour aller plus vite aussi, justement.
Pour faire plus de locations de dernière minute et pour aller plus vite, oui.
Et justement, pour terminer, il faut prévoir combien de temps à peu près quand on arrive en station pour...
Alors malheureusement, je pense que c'est le défaut des stations de ski depuis 40 ans. Tous les gens arrivent le même jour et repartent le même jour. Et avec Netski, donc, on va organiser un système de communication quasi permanent, permettant aux gens de venir un peu plus tard si ça bouchonne, etc. etc.
Merci Philippe Kwaranski.
Merci.
Excellente soirée.
Et merci beaucoup à vous, Carole Ferry. On ne vous dit pas à demain, puisque demain, à cette heure-ci, on suivra l'équipe de France de foot face à la Moldavie. Mais on vous dit à vendredi.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et dans un instant, sur Europe 1, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite. Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Et beaucoup de vos journaux rendent hommage évidemment à Raymond Poulidor, avec notamment une très belle photo à la une de Libération et ce titre, l'échappée finale. Anctil maillot jaune, Poulidor gilet jaune, écrit Laurent Geoffrin. On parle ici d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître ou bien seulement par oui-dire. Anctil et Poulidor dans les Rolling 60s, ces deux rouleurs à bicyclette formaient le duo mythique de la France des 30 Glorieuses. Anctil gagnait les courses, Poulidor gagnait les cœurs. Anctil était le premier de la classe cycliste, Poulidor l'éternel second. Anctil était froid, calculateur, élégant, d'une redoutable intelligence tactique. Il a gagné 5 Tours de France, en plus de multiples trophées. Poulidor était généreux, simple, courageux, moins maîtrisé, sans doute aussi fort que l'autre, mais souvent malchanceux, il n'a jamais gagné le Tour. Dans le journal Alsace, Laurent Baudin évoque lui aussi ce cycliste devenu icône française. La disparition de Raymond Poulidor laisse la France, dès plus de 40 ans, orpheline d'un visage ami, reconnaissable entre mille, avec ses yeux rieurs, sa voix rocailleuse et ses explications aussi simples que pleines de bon sens. Poulidor, écrit-il, était le reflet d'une France des campagnes, travailleuse et sincère, reconnaissante et bienveillante, loin des clichés marketing. Hôpital, le gouvernement cherche une issue, titre Les Échos. La mobilisation de demain s'annonce massive. Le gouvernement calibre son plan d'urgence. Tandis que West France, lui, titre Au bord de l'asphyxie, l'hôpital en grève. Oui, la France a créé des emplois, titre le journal La Croix, alors que l'INSEE publie demain les chiffres du chômage. Les créations d'emplois restent au beau fixe, malgré une croissance morose. Mois après mois, trimestre après trimestre et même année après année, l'économie française crée davantage d'emplois qu'elle n'en perd. Et puis Barouin, Bertrand, Pécresse, les clés d'un match à Troyes, titre le journal L'Opinion. Le maire de Troyes, le président des Hauts-de-France et la patronne de la région Île-de-France ont désormais la présidentielle de 2022 en tête. en vue d'un duel avec Macron. Les stratégies s'affûtent. Et puis on adore aussi ce dessin de CAQ qui représente Patrick Balkany et son avocat, le maire de Levallois, qui a vu aujourd'hui sa demande de mise en liberté rejetée et qui découvre donc cette une du journal L'Opinion et qui dit à Maître Dupont-Moretti, son avocat, « Faudrait vous bouger parce que je prends du retard là ». Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que je vous retrouverai demain dans vos kiosques. Et à 22h30, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission et à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure 23h. Yeah.